Joris Karl Huysmans, Paysage, le cabaret des peupliers. La plaine s'étend, aride et morne. Les grandes cultures des orties et des chardons la couvrent, rompues çà et là par les mares séchées de la Bièvre morte. Le bout d'un étang scintille à gauche au soleil comme un éclat de verre. Le reste moisi, glacé de vert pistache par les lentilles d'eau. Au loin, une ou deux cabanes branlantes avec des matelas pendus aux fenêtres et des fleurs plantées dans des boîtes au lait et dans de vieilles marmites. Des arbres aux sèves affaiblies siègent à d'inégales distances, montrant comme des mendiants leurs bras paralysés, hochant des têtes qui bégaient dans le vent, courbant des troncs, chétivement nourris par la lésine d'un incurable sol. Le sol de cette plaine à droite, la rivière coule en un mince ruban, bordant la route qui s'engage sous une arche de pont jusqu'à la poterne ouverte dans les remparts. Des cultures maraîchères verdoient par places dans une terre moins pauvre. Huit vigoureux peupliers vantent une maisonnette dont les murs se dressent, mettant les jolis taches de leurs crépis roses sous la guipure mauve et verte des feuilles. On lit en haut, près du toit, cette inscription « Débit de vin » et devant cette coquetterie de couleurs, devant ces tonnelles qui se penchent sur l'eau, l'on songe involontairement au plaisant décor des auberges de théâtre. Malgré soi, l'on songe aussi à une salle poudrée de grès, à une armoire de noyer armée de ferrures, de pichets d'étain, de vaisselles à corps et qu'à fleurs. L'on se dit qu'il serait bon de boire sur un coin de table le petit vin suret et de couper une vaste miche dans le pain rond des ménages, de manger, tout en l'arrosant d'ample rasade, de solides omelettes persillées de petits ciboules ou bardées de lard. Puis on s'approche, on franchit l'immobile rivière sur une passerelle, et alors ce cabaret, si pimpant et si bonhomme, s'assombrit comme un repère, comme un coupe-gorge. Le sourire de ses murs roses a fui. Une vieillesse hâtive et ignoble a voûté les chevrons et courbé le toit. Le teint éraillé est d'un rouge atroce. On pense immédiatement devant cette cahute à une épouvantable pierreuse qui détrousse et surine dès que la nuit tombe. Des tatouages de peinture noire apparaissent sous l'horrible épiderme du plâtre meurtri, des lettres mangées par le passage des saisons, faisant des mots intelligibles encore, lapins sautés, bières et vins, au rendez-vous des peupliers. Un silence inquiétant plane au-dessus du bouge. Les vieux réverbères à poulies qui pendent le long de la route prennent des allures lugubres et louches. L'on frissonne à l'idée qu'on pourrait se trouver attardé là, tout seul, un soir. Assis sous une tonnelle, devant une table bâtie avec une planche posée sur quatre lattes, vous voyez, après des appels furieux, une servante poindre au bout de l'allée, le ventre en avant, la tête embobinée de linge, les yeux caves, les joues vides et tachées de sang. Elle apporte, après avoir consulté la patronne qui hésite, défiante, craignant la rousse, des verres massifs gardant encore des places mal essuyées de bouche. Elle verse le pissat d'âne fabriqué dans cette immense bâtisse qui s'élève au-dessus de la plaine, la brasserie de l'ancienne barrière blanche, et l'on découvre, si l'on suit le regard de cette fille, au travers des feuilles, dans un bosquet voisin, un ouvrier qui dort, la chemise de percale ouverte au cou et bouffant de la culotte serrée à la taille par une ceinture de cuir. Il se retourne, sacrant après les mouches, et un hideux côté du visage se montre, barbouillé comme les murs, du bouche d'une large tache de lit de vin et de sang. Aucune carriole et aucun haquet ne passent, troublant le repos de la ruelle déserte. Le roulement du chemin de fer retentit, seul par instant. Des flocons de vapeur blanche s'envolent et viennent nicher dans le plafond de la tonnelle. Un coq claironne, agitant son rouge cimier, brandissant le panache de sa queue plumée de verre, bouteille et d'or. Une troupe de canards se précipite avec d'affreux coins-coins dans la bièvre qui se réveille et souffle son haleine de purin gâté. Alors, si, vous tournant vers les remparts, vous contemplez l'horizon rayé par la voile de ceinture, d'inconsolantes et de salutaires pensées vous viennent. En haut, tout en haut, couvrant le ciel, Bicêtre dresse sa masse énorme, dominant tout Paris comme une menace, rappelant aux factices énergies de nos sens surmenés, aux dépenses inconsidérées de nos cervelles, aux douleurs de nos amitiés et de nos ambitions déçues, la fin désastreuse qui les attend. Bouée formidable et grandiose, signalant les brisants de la ville, Bicêtre complète cette désolante image de la vie qu'évoque déjà en nous la Bièvre, si joyeuse et si bleue à Buc, plus malingre, plus noire à mesure qu'elle s'avance, épuisée par les constants labeurs qu'on lui inflige, impotente et putride alors qu'ayant terminé sa lourde tâche, elle tombe exténuée dans l'égout qu'il aspire d'un trait et va la recracher au loin dans un coin perdu de Seine.